Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et tous. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Masraval, DGS de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, qui est située au nord de Montpellier. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marie.
Alors Nathalie, votre communauté de communes s'interroge aujourd'hui sur la possibilité de prendre la compétence mobilité, comme il invite la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide historique de votre territoire en matière de mobilité?
Oui, avec plaisir. Alors notre territoire, donc vous l'avez dit, c'est un territoire qui est situé au nord de la ville de Montpellier, donc à la fois périurbain mais aussi rural. Il comprend environ 50 000 habitants pour 36 communes. Donc c'est une communauté de communes qui est très volontaire en termes de mobilité, mais qui historiquement, sur cette compétence, qui n'en était pas une, hein, puisqu'elle a juste une compétence aménagement du territoire et non pas une compétence mobilité, elle avait peu de moyens. Donc on a commencé par travailler sur un schéma de cohérence territoriale, on a réalisé un schéma global de déplacement, et puis on a identifié des actions pertinentes, des actions opérationnelles, pour une mise en œuvre très concrète. Donc on a réalisé des pistes cyclables en lien avec les communes, on a aussi prolongé des lignes de transport en commun qui étaient sur la métropole, donc on a agi, même en étant une communauté de communes qui n'était pas compétente en termes de mobilité. Donc on a cette expérience, on a ce recul, on en connaît les enjeux, et puis surtout, on en voit les impacts avec des actions qui ont déjà été mises en œuvre. Donc on a également l'habitude de traiter avec d'autres acteurs de la mobilité, dont j'en ai parlé, hein, la métropole de Montpellier, puisqu'il y a de nombreux mouvements pendulaires entre notre territoire et le territoire de la ville de Montpellier. Et à travers ces expériences très opérationnelles, on a expérimenté, malheureusement, parfois, même avec la meilleure volonté de toutes les parties, la lourdeur administrative que peut être la mise en œuvre d'actions de mobilité quand on n'est pas compétent. C'est-à-dire qu'on va passer à travers des conventionnements et ça ralentit énormément le travail. Donc les élus voient l'impact, l'enjeu d'agir en termes de mobilité, mais aussi se heurtent à ce déficit de simplicité, d'agilité. Et c'est pour ça que on s'est vraiment intéressé à cette capacité, ou pas, hein, de devenir autorité organisatrice de mobilité. Il faut être vraiment conscient aussi que si on devient AOM, si on devenait AOM, la péréquation évoluerait. Donc les décisions, elles doivent se prendre en lien et en accord avec la région qui est et restera le chef de file de cette compétence.
Alors donc vous êtes un territoire, on l'a dit, qui était déjà assez expert en matière de mobilité sans être AOM aujourd'hui. Alors finalement, quels seraient les avantages pour votre communauté de communes à devenir compétente en matière de mobilité?
Alors forcément, mais tout d'abord, je vais prendre des précautions oratoires. Je vais vous dire qu'avant tout, c'est une décision politique. Donc surtout dans le contexte actuel, hein, on va avoir la mise en place de nos exécutifs qui va avoir lieu mi-juillet, au 17 juillet au plus tard. Donc devenir compétent en termes de mobilité, c'est avant tout une décision politique. Donc je ne pourrais pas m'avancer sur ce champ-là. Par contre, je peux vous détailler de manière la plus objective possible au niveau administratif, les avantages que cela peut avoir. Donc au niveau administratif, déjà, je vous en ai déjà parlé, c'est la simplicité et l'agilité pour mener des actions très concrètes de proximité, donc ne pas passer à travers des conventionnements. Le deuxième volet, c'est aussi endémique à notre territoire, c'est-à-dire qu'on a un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, notre communauté de communes, qui est de la taille d'une communauté d'agglomération. Je vous l'ai dit, on a 50 000 habitants, mais on n'a pas le poids de la ville-centre de 15 000 habitants. On a une ville-centre de 10 000 habitants, ce qui fait qu'on ne peut pas être communauté d'agglomération alors qu'on en a la population. Et si on était communauté d'agglomération, de fait, nous devrions être autorité organisatrice de mobilité. Donc il y a aussi ce souci d'équité avec des territoires qui ont la même taille. On a aussi des volets qui, eux, concerneront, qui sont moins contextuels, qui concerneront toutes les communautés de communes. Donc tout d'abord, pour participer à la gouvernance de la mobilité à l'avenir, via l'élaboration des contrats opérationnels de mobilité qui sont prévus dans la LOM, pour compter aussi dans la définition des bassins de mobilité, eh ben le fait d'être autorité organisatrice de mobilité permettra de peser dans la gouvernance, aux côtés évidemment de la région qui restera chef de file. Donc, il y a ce volet gouvernance à côté du volet simplicité de mise en œuvre. Et puis aussi, on a des spécificités qui sont prévues dans la LOM. Par exemple, il n'est pas obligatoire pour les communautés de communes, hein. Là je suis vraiment communauté de communes, ce n'est pas la même chose pour les communautés d'agglomération, on n'est pas obligé d'exercer toutes les compétences. Notamment, si notre communauté de communes choisissait de devenir AON, elle n'aurait pas à reprendre toutes les lignes que la région assure actuellement sur la territoire. Donc que ça soit des lignes de transport scolaire, comme des lignes de transport en commun. Donc on a vraiment une souplesse, une flexibilité qui est permise pour les communautés de communes qui ne sont pas actuellement compétentes, qui veut dire aussi en termes administratifs beaucoup moins de lourdeur parce qu'on n'aurait pas de CLET et de discussions financières contraignantes à mener avec la région, donc qui conserverait des lignes préexistantes. Et aussi, quelque chose qui est non neutre, je ne sais pas si tout le monde a pu saisir ce volet-là, c'est que ultérieurement, supposons que nos élus, première intention, ne veulent pas prendre la compétence mobilité, et puis au bout d'un an, deux ans, estiment que il est judicieux de la prendre. Et bien là, on serait dans une situation complexe parce qu'on ne pourrait plus la prendre. Sauf s'il y avait des modifications du périmètre de l'EPCI, par exemple, et ça ne dépendrait pas de notre volonté. Donc, on a aussi cette impossibilité de prendre la compétence ultérieurement, donc ça, il faut vraiment attirer l'attention des élus, d'après moi, hein, sur ce sujet. Et puis aussi, si jamais les élus à terme veulent reprendre la compétence et puis qu'on a une évolution du périmètre de l'EPCI, par exemple, eh ben il y aurait à ce moment-là obligation de prendre toutes les compétences en bloc. Donc la souplesse permise initialement de ne pas prendre les lignes de TC ou scolaires exercées par la région, eh ben elle serait imposée s'il y avait une prise de compétence ultérieure. Et puis, je fais un anglicisme qui plairait pas trop à nos élus, qui préfèrent qu'on parle un petit peu plus en français, on va dire, ça serait de dire que il y a aussi une problématique financière. C'est-à-dire que actuellement, si on devient autorité organisatrice de mobilité, on a la possibilité de lever un versement mobilité si nous mettons en place des lignes de transport en commun. Ce versement mobilité, je prends l'exemple de notre communauté de communes, il représente entre 1 million et 1,7 million d'euros. Donc c'est non neutre. Par contre, si la communauté de communes choisit de ne pas prendre cette compétence, et donc par substitution c'est la région qui prend cette compétence, celle-ci n'aura pas la possibilité de lever ce versement mobilité. Et dans le contexte de contraintes financières que nous avons actuellement, on voit que c'est un véritable enjeu.
Alors là, on vient d'analyser un peu les avantages à la prise de compétence par la communauté de communes. Mais finalement, la LOM permet aussi la prise de compétences par d'autres collectivités, par exemple des syndicats mixtes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette option ?
Oui, vous avez raison. C'est un point, en plus, qui est assez singulier sur notre département, parce qu'on a un syndicat mixte anciennement départemental qui est devenu régional, hein, via le jeu des compétences, qui préexiste sur notre territoire. Donc, on y réfléchira en lien avec les autres PCI, sans doute, mais il pourrait être envisagé un mécanisme de délégation de compétences à ce syndicat mixte ou de représentation substitution de la région, si tel était le choix des élus, encore une fois. Donc, à ce moment-là, il y aurait une continuité dans les actions et pas de remise en cause brutale de la gouvernance, tout en conservant un effet de mutualisation. Donc, on voit tout ça, c'est un peu complexe en termes juridiques. C'est affiné, mais évidemment, en fonction des souhaits des élus. Et toujours en lien, évidemment, avec l'autorité chef de file, la région, qui est garante de la cohérence et de la péréquation territoriale.
Alors, venons-en aux aspects très concrets. Comment est-ce que aujourd'hui vous vous préparez à cette possible prise de compétence?
Alors, là, c'est aussi particulier, c'est contextuel. Notre territoire, il s'est préparé en travaillant en amont. On a eu la chance d'avoir une cellule d'expérimentation en lien avec France Mobilité, donc il y a une démarche nationale qui a été menée donc par le ministère de l'écologie et du développement durable, et ça a été très formateur pour notre territoire, très enrichissant et stimulant. Donc on peut dire qu'on a été un territoire privilégié. Donc là, je ne veux pas utiliser notre exemple parce que ça serait un peu, on va dire, ça n'aiderait pas forcément les communautés de communes qui écoutent. Moi, plutôt en termes de conseils pour les communautés de communes qui se posent actuellement des questions, c'est d'aller justement sur le site de France Mobilité, qui est très bien fait, le site internet, où il y a une foire aux questions, une FAQ, et puis aussi des fiches descriptives, des fiches opérationnelles d'aide à la mise en œuvre. Il y a beaucoup de supports qui ont été réalisés. Donc, on peut citer un document du GARS, le groupement des autorités responsables du transport, qui a publié un guide qui recense les principales dispositions de la LOM. Donc là, tous ces supports, on les trouve sur le site internet France Mobilité. Donc, il y a un document du GARS. Il y a un document d'Agir Transport, qui est une association qui a publié aussi un guide pratique sur la LOM. Et puis, moi, en étant EPCI, c'est vrai que je citerai surtout un document de l'ADCF, de l'Assemblée des communautés de France, qui l'a publié avec Transdev, donc un opérateur privé, qui est un document juridique et très pratique sous la forme de questions-réponses. Donc, ça permet de voir un petit peu quelles sont les modalités d'exercice de la compétence et puis aussi les transferts, les modalités de transfert. Donc c'est très opérationnel. Donc il a été mis à jour en avril 2020, donc on voit c'est très récent, c'est mis à jour au fur et à mesure. Et je pense que ça peut vraiment être un outil d'aide pour les communautés de communes qui se posent des questions. Bon, en parallèle, il y a évidemment des formations qui sont en train de se préparer par le CNFPT. Et puis, nous, ça a toujours été notre manière de fonctionner, c'est de faire du benchmarking, de l'échange avec les autres PCI de notre bassin de mobilité. Et je pense que c'est très instructif, évidemment à côté du travail à mener avec la région, un travail à mener pour ménager une cohérence dans ses actions. Puis, pour conclure, je pense que ça serait important aussi de regarder ce qui se fait dans d'autres régions, parce que là, je vous parle beaucoup de notre région Occitanie, mais j'ai assisté à une web rencontre que je vous encourage à regarder sur le site de la DCF, donc en replay, où on voit comment cette région se propose d'accompagner les communautés de communes en ingénierie pour envisager cette prise de compétences. Par la complémentarité entre les communautés de communes qui sont plutôt sur le micro, c'est-à-dire sur les mobilités actives, et les régions qui sont plus sur le macro et axées sur le ferroviaire. Voilà, donc beaucoup de benchmarking à faire, mais en tout cas beaucoup de support pour aider à réfléchir sur cette prise de compétences, de manière à aider l'aide à la décision sur la base d'éléments qui seront objectifs et quantifiables.
Et alors, en termes d'anticipation, de préparation, je crois que vous encouragez également à travailler sur la question de l'équipe qui va gérer cette thématique mobilité.
Oui, en termes de retour d'expérience, moi, c'est vraiment le message que je souhaiterais faire passer. J'en ai un petit peu souffert, on va dire, ou plutôt c'est notre communauté de communes qui en a souffert, c'est que n'ayant pas de moyens, on est parti sur l'emploi de chargé de mission. Et donc, on a eu vraiment des difficultés de continuité de l'action. Donc, ça a beaucoup mobilisé toute la hiérarchie, y compris moi. Vous le voyez, c'est vrai que je me suis emparée de cette problématique. Donc, ça a été des côtés positifs aussi. Moi, je préfère toujours voir les côtés positifs. Mais j'attire vraiment l'attention là-dessus parce qu'à l'aune de la crise importante que nous avons eue et puis des difficultés financières que nous allons avoir à l'avenir, on pourrait tenter de se dire on va passer via des appels à projets et financer la partie ressources humaines via des financements ADEME ou autres. Et je pense qu'il faut dimensionner dès le départ un service mobilité et échanger avec les élus à ce sujet. Parce que sinon, on perd beaucoup de temps si on n'a pas une continuité d'action. C'est-à-dire que il faut dimensionner un service non pas à une seule personne, mais vraiment penser au service tant en termes d'animation, de mise en œuvre, que de coordination avec les autres services. Il va falloir chercher des subventions, contractualiser, planifier. Et souvent, un chargé de mission, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment se poser pour assurer une pérennité à notre action.
Donc, vous encouragez vraiment les techniciens à monter en compétences, vous encouragez une grosse réflexion sur cette question des personnes qui vont assurer les missions sur la mobilité. Si on en revient à la préparation, mais cette fois-ci des élus, comment est-ce que dans les mois qui viennent, vous allez préparer vos élus à décider de prendre ou pas la compétence?
Alors là, c'est vraiment une question de méthode, d'après moi. Donc, chacun a la sienne. Moi, je peux vous détailler celle qu'on se propose de mettre en œuvre. On a l'intention de mettre en place un séminaire à la rentrée, donc un temps collectif de lancement de notre projet territoire, Donc j'ai un séminaire, on est en train d'y réfléchir. Hein. Donc on, là, je vous le dis en marchant, entre guillemets. Donc il sera peut-être itinérant pour se mettre en mouvement, justement. Donc là, au sens propre comme au sens figuré. C'est des fois mieux qu'un diagnostic présenté en 40 ou 50 slides. C'est une approche concrète. En réfléchissant aussi à l'utilisation des supports numériques hein, pour refléter un peu l'évolution d'un télétravail qu'on vit actuellement. Donc, notre objectif, c'est dans un contexte après Covid, de faire le lien entre la période récente et le mandat qui s'ouvre par une appropriation terrain. Donc là, on parle, c'est un peu théorique, mais c'est vrai que d'aller sur le terrain, des fois, c'est plus concret. Donc, on veut, à travers un séminaire terrain, présenter les grands objectifs, les grands chantiers, et notamment le travail sur les obligations réglementaires. Donc là, on parle de la LOM, mais on pourrait parler du PLUI. On va devoir reposer la question aussi, hein, puisque on doit se positionner avant la fin de l'année 2020. Nous, on a aussi une réflexion sur le PLH, sur notre PCAET. Voilà. Donc tout ça, ça permet aussi de ménager, en tout cas de mener en parallèle des réflexions qui sont cohérentes. Donc en termes de méthode, puisque ça c'est vraiment surtout ce qui intéresse tout le monde, il ne faut pas oublier que la compétence mobilité, c'est certes l'intercommunalité qui va la prendre, mais elle va être déléguée, ou en tout cas transférée, par les communes. Donc en amont, il faut mener un travail avec les secrétaires de mairie. D'ailleurs, c'est-à-dire les secrétaires de mairie que les élus vont se retourner au moment de préparer les délibérations de prise de compétence. Hein. Donc c'est important de mener vraiment ce travail, d'après moi, hein, avec les secrétaires de mairie. Parce que certaines communes ont développé des services de mobilité déjà, hein, pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes âgées. Donc d'abord, travail avec les secrétaires de mairie. Ensuite, travail en aller-retour entre les commissions de travail de la communauté, le bureau, donc instance décisionnelle avec le conseil communautaire, et puis le conseil des maires que l'on a déjà mis en place et qui est une instance stratégique très importante, qui d'ailleurs sera peut-être territorialisée au vu du pacte de gouvernance qu'on peut être amené à mettre en place. Donc, d'ailleurs, ça peut être très logique de territorialiser dans une logique opérationnelle, parce que nous, on a un sud, je vous le disais, qui est périurbain, et un nord qui est rural, donc avec des problématiques qui sont différentes. Donc, dans tous les cas, en termes de méthode, l'objectif de faire ces allers-retours, commission, bureau, conseil des maires, c'est d'avoir une vision partagée avec les communes. J'irai même au-delà, après ce travail en interne, c'est de mener avec les autres PCI, faire le pendant, donc réunion secrétaire de mairie, réunion élue en interne, et réunion avec, pour nous, on a déjà commencé à le mettre en place, des réunions DGS avec les EPCI qui sont mitoyens. Donc on voit, on a quand même beaucoup de travail à mener. La méthode peut paraître claire, mais le calendrier est contraint, puisque tout ça, on va le faire pour la Comcom, hein, pour que les communes puissent délibérer dans les 3 mois qui suivent, donc avant le 31 mars 2021, à la majorité qualifiée, hein, comme toute prise de compétence, avec en plus un contexte préélectoral pour la région. Bon, je me dis, on est arrivé à gérer la crise du Covid, on serait arrivé à gérer ce calendrier contraint, mais mon objectif, je pense, comme beaucoup d'autres DGS, c'est surtout de le faire dans la sérénité, hein. C'est une aspiration après la crise qu'on a connue au niveau du Covid, donc beaucoup de pédagogie, d'écoute, pour atteindre un consensus, et surtout une confiance réciproque hein, entre l'interco, les communes, même le département, je n'ai pas parlé, mais qui est aussi un acteur important dans la mobilité, hein, via la voirie départementale, et puis la région.
Merci beaucoup Nathalie Mastraval. Je rappelle que vous êtes DGS de la communauté de communes du Grand Puy de Saint-Loup.
Merci beaucoup Marie.
Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.